Le Frankreich Bloc est aujourd'hui à Paris. En face de moi, il y a Pierre-Yves Le Borgne. Monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver sur le Frankreich Bloc. Vous avez quitté la vie publique en juin 2017.
Senior counsel pour deux cabinets de conseil, l'un à Berlin, l'autre à Paris, sur ces mêmes questions de développement durable, d'éco-mobilité, d'énergie renouvelable, que je connaissais avant ma vie politique, puisque j'étais un cadre dirigeant du secteur solaire. Et je travaille au contact de clients du secteur industriel, du secteur public aussi, et du monde des ONG.
Pourquoi avez-vous écrit des tribunes récemment où la passion de l'Europe apparaît comme un fil conducteur ?
Je me suis interrogé, j'avais envie d'écrire. Je m'étais astreint au silence. J'avais besoin du silence pendant une très grande partie de cette année. Ce qui ne voulait pas dire que j'écrivais pas. J'ai continué à écrire pendant tout ce temps, mais je n'ai pu rien publier du tout. Et est venu un déclic qui était pour moi l'élection italienne. Déjà, le choc des résultats des partis populistes qui arrivent très haut, et plus encore, l'alliance de ces partis populistes, qui en soi n'avaient pas grand-chose en commun, mais qui ont formé un gouvernement lequel aujourd'hui mène la guerre à l'Europe, pas simplement à ses politiques, mais à son existence même, alors que l'Italie est l'un des pays fondateurs et le pays dans lequel a été signé le traité de Rome. Et je me suis dit que je ne pouvais pas finalement rester silencieux en dépit de ce choix d'être un peu distant qui était le mien à l'origine. J'ai eu envie de témoigner, de partager, parce qu'après tout j'ai été député 5 ans, j'ai été candidat au mandat de commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Il n'a pas manqué grand-chose, j'ai des choses à dire, j'ai aussi des choses à dire comme citoyen, comme père, parce que je n'arrive pas à imaginer qu'il soit acceptable, même commun, qu'aujourd'hui en Europe, on en arrive à revendiquer comme mesure de politique publique l'inégalité de traitement, que la posture l'emporte toujours sur le fond, que l'insulte, l'invective tiennent lieu de débats publics, en particulier sur les réseaux sociaux, et que le projet européen soit le bouc émissaire de tous les dingues qui existent sur le continent.
Justement, nous avons eu l'idée au Frankreich Bloc de vous interroger sur l'identité européenne, sur les valeurs européennes auxquelles vous faites référence. Vous avez travaillé sur cette question au Conseil de l'Europe par le rapport que vous aviez consacré au réseau culturel de diaspora. Existe-t-il une identité qui fasse ciment entre Européens ou est-ce que c'est là une expression vaine ?
Je crois profondément à l'identité européenne. Sans doute l'ai-je ressenti en étant député des Français d'Europe centrale et des Balkans, en plus de ce qu'avait été ma vie avant. Pour moi, l'identité européenne, c'est une communauté culturelle qui s'est forgée au fil des siècles, sur un temps très long, à travers des étapes comme la Renaissance, comme la Réforme, comme les Lumières, il y en a eu d'autres aussi. L'identité européenne, c'est un creuset de valeurs communes qui transcende le cadre des nations et qui fait qu'on se reconnaît d'un pays à l'autre, au-delà de toutes les différences, de toutes les vicissitudes de l'histoire que l'on peut connaître. Mais pour autant, et c'est peut-être la raison pour laquelle l'émergence de l'identité européenne est si lente ou difficile, ou si curieusement, difficilement perçue par les citoyens, il y a en parallèle une autre réalité, qui est celle de l'identité des États-nations. Les États sont porteurs d'une identité culturelle et historique forte, indéniable, que je reconnais et comme Français que je soutiens. Mais pour moi, ces deux réalités, identité culturelle européenne, identité culturelle nationale, ne s'affrontent pas. Elles se complètent. Je vois l'identité européenne comme un socle commun, construite finalement autour de la dignité humaine, autour de la liberté, de la démocratie, de l'égalité, de l'état de droit, des droits de l'homme. Et pour moi, cette identité européenne relève d'un supplément d'âme. C'est une expression que j'avais utilisée dans la tribune que j'ai écrite au mois de septembre pour Ouest France. Le supplément d'âme du projet européen, parce que l'Europe ne peut pas se résumer à un cadre juridique, à un marché unique, à une monnaie ou à des libertés de circulation. Bien sûr, c'est ça, mais ça n'est pas que ça, Dieu merci.
Est-ce que vous intégrez le fait religieux dans l'identité européenne ? Cette question fait débat, notamment en France. Et ne trouvez-vous pas étrange que l'identité que vous décrivez soit aussi peu ressentie par les citoyens de l'Europe ?
Pour moi, le fait religieux a contribué à forger l'identité européenne. Et Prétendre l'inverse ne ferait aucun sens. J'essaye de ne pas me laisser aspirer par le politiquement correct. Pour moi, l'Europe a des racines judéo-chrétiennes fortes. Et celles-ci, ces racines, ont joué un rôle déterminant dans la construction de l'identité européenne. Mais tout autant, finalement, que les Lumières, dont je parlais un peu plus tôt. Également, l'islam d'Europe, et en particulier l'islam des Balkans, que j'ai connu comme député quand je me déplaçais à travers les pays de l'ex-Yougoslavie, notamment. L'identité européenne, c'est tout cet héritage commun. Pourquoi c'est comme ça ? Parce que nous sommes aujourd'hui à nous demander les raisons pour lesquelles il y a une faible appropriation par les citoyens de cet héritage. Parce qu'à l'échelle de l'Union européenne, sans doute, depuis la création dans les années 50, on a mis en avant un projet économique légitime, mais qui a mis longtemps lui-même à aborder la question des valeurs et de l'identité. C'est venu avec le traité de Maastricht en 1992, c'est venu avec la charte des droits fondamentaux en 2000, c'est-à-dire pour le coup bien tard par rapport au traité de Rome de 1957, et même quand on se réfère à la communauté européenne du charbon et de l'acier au début des années 50. Je crois aussi, pour expliquer les raisons pour lesquelles l'identité européenne est si lente à être perçue par le citoyen européen, que l'absence d'un récit européen, au sens d'une histoire à partager entre Européens, joue contre la reconnaissance de l'identité européenne. Et je me dis parfois aussi que l'absence d'expression ou de réflexion sur les limites géographiques de l'Europe joue aussi contre la montée du sentiment d'identité européenne. On a à l'ouest des limites dessinées par les côtes. La géographie, à l'est, on ne l'a pas. Et c'est un sujet que politiquement, on tente à esquiver. Or, je crois qu'il faut le poser, non pas pour exclure, mais pour définir, créer un sentiment d'appartenance.
Et pour moi, aussi signifie l'ouverture de l'Europe.
Aussi, oui, tout à fait. C'est un débat, par exemple, que nous avons en France sur faut-il ou non que les pays des Balkans occidentaux adhèrent à l'Union européenne. Ma réponse est 40 000 fois oui. Ce sont des pays européens. Au nom de quoi leur dirait-on qu'ils n'ont pas matière à accéder à l'Union européenne dès lors qu'ils remplissent les critères dits de Copenhague, pour beaucoup, sur la citoyenneté, sur l'état de droit et la démocratie. Il faut qu'on ait cette même volonté d'ouverture à l'égard des Balkans occidentaux qu'on a eue vers d'autres zones de l'Europe auparavant. Mais en même temps, que l'on se fixe une limite géographique de l'Europe qui ne soit pas le rejet de ceux qui n'en seraient pas, mais qui affirme clairement jusqu'où l'on va en termes de carte et qui permettent à ceux qui sont dedans de se sentir citoyens européens, porteurs d'un idéal européen, davantage probablement que ceux que l'on ressent aujourd'hui.
N'est-ce pas injuste au regard des efforts entrepris par des institutions européennes ? Que faudrait-il faire de plus ?
C'est vrai que c'est injuste parce que il faut reconnaître que beaucoup a été entrepris par les institutions de l'Union européenne, et cela même au-delà des symboles que l'on connaît, le drapeau avec des étoiles jaunes, l'hymne européen ou la devise « Unis dans la diversité ». Je pense à des programmes incroyables comme Erasmus. Quand j'étais étudiant à Sciences Po, à deux pas d'ici, c'est au moment même où démarrait Erasmus, et ça démarrait avec tellement peu de moyens. Et 30 ans après, lorsqu'on regarde le bilan, ce sont des millions d'étudiants, aujourd'hui un petit peu plus qu'étudiants, qui ont pu voyager à travers l'Europe et se construire ainsi une forme de passeport européen culturel, plus encore professionnel. Cette dimension-là joue en faveur de la reconnaissance de l'identité européenne.
Il forge ce récit européen.
Il forge le récit européen et rend plus facile d'ailleurs l'impact d'autres mesures, comme les journées du patrimoine, comme les capitales européennes de la culture, il y en a eu à peu près 60 aujourd'hui maintenant, et la journée de l'Europe, le 9 mai, ce qu'on appelle à Bruxelles la Saint-Schumann. Ce sont autant de sujets qui touchent, qui ont été mis en avant par les institutions et en particulier par la Commission européenne, mais qui résonnent encore insuffisamment. Qu'est-ce qui manque ? Moi, j'en reviens toujours à l'idée qu'il manque un récit européen en complément du récit national. Il manque aussi chez beaucoup d'États membres une volonté d'intégrer la dimension européenne à l'école. L'école est la base de tout. L'école, c'est la base de l'éveil à la citoyenneté. Puis je n'oublie pas non plus la question linguistique. Pour être des Européens passionnés, il faut parler un peu plus, d'abord que sa langue maternelle, mais aussi un peu plus que le seul anglais. L'anglais est une langue commune aujourd'hui. Mais l'Europe a tellement plus d'autres langues. Et le multilinguisme est un élément de reconnaissance à la fois de la diversité européenne et aussi d'éveil à l'identité européenne. Et je suis bien, ou je ne sais pas trop bien placé pour le connaître, puisque j'ai mené pendant mon mandat de député la bataille contre la suppression des classes bilingues en France, qui était en clair une bataille pour le maintien de l'effort en faveur de l'apprentissage de l'allemand. Le multilinguisme, pour moi, est une condition forte du développement de l'identité européenne et donc commande un engagement public de la part des États membres et des institutions de l'Union.
Que peuvent apporter les Allemands et les Français ensemble ?
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se connaît bien, je suis un défenseur de la relation franco-allemande. Du côté français, on dit souvent aussi du couple franco-allemand. Je pense, pour prendre un exemple, à un manuel d'histoire franco-allemand considérable, qui gagnerait à être bien plus utilisé qu'il ne l'est aujourd'hui, et aussi à servir de référence, une forme de benchmark finalement. Quand, en 2014, à l'occasion d'une visite que je faisais en Macédoine, dans ma circonscription, je m'étais adressé à l'Assemblée des professeurs d'histoire de Macédoine, en compagnie de l'ambassadrice de France et de l'ambassadrice d'Allemagne, c'était à partir du manuel d'histoire franco-allemand. Et j'avais face à moi des gens émanant de toute la mosaïque qu'est la Macédoine. Des personnes qui, 10-15 ans avant, se vouaient probablement des haines recuites multiséculaires dans un pays qui avait été sur le point de glisser vers la guerre civile. Et je m'étais aperçu que l'échange suscité par les valeurs portées par le manuel d'histoire franco-allemand était remarquable. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai senti toute la densité de ce travail qu'auparavant je ne voyais probablement que de nature franco-allemande. Et ça m'amène à imaginer que l'on puisse non seulement avoir un manuel d'histoire européenne, mais créer une forme de module, de programme d'histoire européenne que l'on puisse diffuser dans les cursus lycéens, parce qu'il faut probablement être à ce niveau d'études, dans tous les États membres, que ce soit un programme commun développé à l'échelon local qui permette à ces jeunes s'éveillant à la citoyenneté de comprendre qu'ils ont la citoyenneté de leur pays ou parfois d'un autre pays aussi, une identité nationale, mais une identité européenne commune en plus. Je voudrais imaginer ça. Puis il y a plein d'autres exemples. Hein. Regardez la réussite d'Arte dans le domaine télévisuel et de la création médias franco-allemandes. Pourquoi ne pas imaginer qu'Arte soit une forme de base, soit à partir d'Arte, soit à partir d'un effort différent, pour une chaîne publique européenne à contenu culturel renforcé. Il y a l'université franco-allemande et ses doubles diplômes, qui est un exemple remarquable de ce que l'on peut faire pour permettre, renforcer en tout cas l'employabilité des jeunes. Il y a tout ce qu'on doit faire aussi en matière d'apprentissage. Je pense au programme franco-allemand de formation professionnelle qui a une vocation aussi à s'ouvrir. Et puis, pour terminer avec un truc qui me touche beaucoup, c'est l'Office franco-allemand pour la jeunesse, l'OFAJ, qui a l'âge du traité de l'Élysée, et dont j'ai pu voir durant mon mandat de député combien il avait été déterminant pour la création de l'Office balkanique pour la jeunesse. L'OFAJ était finalement le consultant presque du futur Office balkanique pour la jeunesse, et l'administrateur que j'étais de l'OFAJ au titre du Parlement français avait été auditionné par les jeunes des Balkans qui faisaient la proposition à leurs 6 gouvernements de créer l'Office balkanique pour la jeunesse. Et pour moi, c'est encore un autre exemple de ce que les initiatives franco-allemandes développées depuis maintenant plus de 50 ans peuvent apporter à l'identité européenne et à la paix en Europe.
Pour réussir tout cela, il faut en France, en Allemagne et en Europe des leaders qui s'engagent. Y en a-t-il ?
Oui, il y a beaucoup de leaders, vraiment. Un peu partout d'ailleurs, pas nécessairement seulement dans le domaine de la vie politique. On les trouve dans le monde de l'entreprise, on les trouve dans le monde de la société civile, dans le monde des jumelages, de toutes les initiatives que j'ai pu rencontrer comme député en Allemagne ou bien en France. Moi, je veux croire que ces leaders, ou plutôt ces militants de la cause européenne, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, affirment leurs convictions dans le moment difficile pour l'Europe que nous traversons, qui n'est pas sans rappeler certaines montées des périls dans les années 30, et donc affirment leur volonté et s'engagent de quelque manière que ce soit. Il y aura des élections européennes bientôt, mais il n'y a pas que ça. Il y a tant d'énergie que l'on peut mettre dans des conférences, dans des écrits, dans des propositions concrètes, iconoclastes, que l'on peut faire. Et finalement, plus c'est iconoclaste, meilleur c'est. Parce que ça en arrive à mettre en mouvement la société, notamment à travers les réseaux sociaux. Parce que l'Europe a besoin de ce sursaut face à tous ces périls dont je parlais. Rien, pour moi, ne serait pire que de faire comme avant. De laisser venir, de jouer petit bras, comme on dit en tennis. Parce que vous laissez aux adversaires de l'Europe la maîtrise du jeu et la capacité d'imposer leur thème. Or, il n'y a rien de pire. Il ne faut pas attendre qu'ils viennent. Il faut que tous ceux qui croient en l'Europe investissent le débat et possèdent le débat. Fassent jouer leurs convictions, leurs thèmes, leurs propositions, afin de démonter la rhétorique des autres en face. Et puis, je n'oublie pas qu'au-delà de la réflexion sur l'identité européenne, il y a la citoyenneté européenne elle-même. Il faut la défendre. À travers la citoyenneté, c'est aussi toute une société à bouger pour le meilleur que nous avons à pousser. Parce que l'Europe, elle n'est pas une contrainte. En ces temps où il est facile de dire du mal de l'Europe, moi j'ai envie de dire que l'Europe est une chance pour nous. Elle est plus que jamais une chance. Une chance pour nous tous, où que nous soyons, quel que soit notre âge, mais en particulier une chance pour nos enfants, c'est-à-dire pour la jeunesse, ces jeunes années qui demain seront les adultes de l'Europe. C'est pour ça que l'éducation, la mobilité des étudiants, la mobilité des apprentis sont des causes qui portent en Allemagne et en France, et c'est à nous, Allemands et Français, de les faire vivre à l'échelle européenne, parce que finalement, de la légitimité, du succès et de l'avenir du projet européen dépend la reconnaissance citoyenne.
Une dernière question. Vous êtes un lecteur assidu. Vous parliez souvent de vos lectures dans les réunions de compte-rendu de mandat que vous animez durant votre mandat à l'Assemblée nationale. Un auteur vous a-t-il fait vibrer pour l'Europe ?
Ah, c'est une question qui me touche parce que c'est vrai, vous m'avez vu souvent en circonscription. Quand j'étais député, je fais pas trois pas sans un livre. Je lisais dans les trains, dans les avions, et ça continue. Et quand nous nous sommes retrouvés il y a quelques minutes, je suis venu aussi avec un livre pour vous, parce que je sais que vous lisez tout autant. Quel auteur m'a touché, m'a bouleversé sur l'Europe ? Si je réfléchis bien, c'est probablement Stefan Zweig. Avec son livre « Le monde d'hier, souvenir d'un Européen » qui m'avait été offert par un ami autrichien quand j'étais étudiant au Collège d'Europe il y a 30 ans maintenant. Je connaissais Zweig que de nom, j'avais pas encore lu Zweig à l'époque et ce livre m'avait vraiment bouleversé, d'autant que quand on connaît l'histoire du livre elle-même, il faut savoir que son manuscrit avait été posté par Zweig au Brésil la veille de son suicide et que donc le livre est un ouvrage posthume. Et ce livre est magnifique par la passion de l'Europe qu'il transporte, l'Europe de la culture. Puis il est dramatique aussi parce que Zweig croyait que cette passion qu'il décrivait était une passion perdue. Et en retour, d'ailleurs, il avait choisi de renoncer à vivre à cause de ça, de commettre un suicide. Et pour moi, Zweig est un héros européen, comme il y en a d'autres. Hein. Je pense à Victor Hugo, que les Français connaissent bien. Je pense à Denis de Rougemont ou à Salvador de Madariaga. Finalement à Churchill aussi, quelque part, avec son discours, fameux discours à l'après-guerre. Et nous avons besoin de ces héros-là pour le récit européen. Il n'y a pas de récit national sans héros national. De la même manière, il n'y aura pas de récit européen sans héros européens. Et ces héros, il faut les identifier, les nommer, les étudier. Et c'est pour ça que la littérature est importante. Il faut toujours ramener la réflexion que l'on a sur l'Europe à l'humanisme de l'après-guerre, aux années fondatrices, congrès de La Haye, les débuts de la communauté européenne du charbon et de l'acier, la communauté économique européenne, les élargissements à partir des six pays fondateurs, En parallèle, le Conseil de l'Europe, avec la Convention européenne des droits de l'homme, la capacité des citoyens européens d'aller se défendre eux-mêmes, à la fois prioritairement devant les juges nationaux, sur la base d'un texte européen où les droits de l'individu peuvent amener la condamnation d'un État, et ensuite devant la Cour européenne des droits de l'homme. L'Europe, c'est ça. C'est un humanisme en mouvement, un humanisme incarné par des valeurs et par une identité. C'est tellement impressionnant au regard d'une histoire qui n'est pas si vieille, finalement. Nous sommes, au sein du Conseil de l'Europe, 820 millions d'Européens. Au sein de l'Union européenne, un peu plus de 500 millions d'Européens vivant dans une communauté de droits. Et il y a 70 ans, nous étions les citoyens de pays belligérants, sortis exsangues avec des millions de morts et de victimes de la Seconde Guerre mondiale. Et imaginons, pour ajouter la première dont on a commémoré les 100 ans il y a quelques jours, à quel point finalement ces moments-là ont été parfois des guerres civiles européennes. C'est pour ça qu'il faut parler de l'Europe, inlassablement, sans s'arrêter, affronter les alternatives, affronter les ennemis de l'Europe. J'emploie le terme à dessein. Il y a une différence entre des adversaires et des ennemis. Les adversaires, moi je les respecte immensément. Ce sont ceux qui peuvent penser différemment, faire des choix différemment, mais qui s'inscrivent dans le cadre d'institutions, à l'échelle nationale, dans un cadre constitutionnel, à l'échelle européenne, dans le cadre des traités, du traité sur l'Union européenne. Mais quand vous êtes un ennemi de l'Europe, c'est que vous voulez la disparition de l'Europe au sens de l'Union européenne et de la destruction de l'Europe. Et ça, moi, je ne peux l'imaginer, et deux, je ne peux rester silencieux face à ça, comme je l'espère des millions d'autres personnes. Reconnaissons ce que l'Europe nous a apporté, reconnaissons ce que nous pourrions être sans l'Europe. Regardez la situation britannique avec le Brexit, le coût de la non-Europe, la perte des libertés de circulation, le risque d'une crise économique au Royaume-Uni et par ricochet aussi en Europe continentale. L'Europe est un mouvement irréversible que l'on peut changer, mais à l'intérieur du traité. C'est pour ça que des élections ont lieu au demeurant. Mais d'imaginer que de changer le cours de l'Europe en détruisant l'Europe est une alternative possible est une folie totale. Et c'est pour ça que je me suis dit que je devais mettre un terme à mon silence sur les réseaux sociaux depuis le début de l'année et partager en toute simplicité les choses que j'ai à cœur, d'engager le débat, ce que j'ai pu écrire est bien sûr disponible sur les sites où j'ai écrit, se trouve relayé par les réseaux sociaux, et j'ai toujours répondu à tous les gens qui me posaient des questions, parfois vivement d'ailleurs. Et puis j'en arrive à me dire que mon blog de député, sur lequel je n'ai plus écrit depuis maintenant un an et demi, depuis juin 2017, mais qui existe encore, sur lequel tout le monde peut aller lire ce que j'ai écrit pendant 7 ans, ben je vais le reprendre. D'ailleurs, à l'origine, il s'appelait « L'avenir est à écrire ». Je vais un peu le changer, parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus aucune existence publique. Ce sera le blog d'un citoyen passionné, engagé, mais d'un simple citoyen pour l'Europe.
Merci bien. Monsieur Le Bon, je vous remercie de vos réponses. Merci bien.
Merci à vous.